Steve!
Stéphane!
Comment vas-tu, mon cher commis?
Ça va très bien. J'ai coupé du bois ce matin à 8 heures avant de venir travailler ici dans ce super club vidéo. Donc, je me sens très... je sais pas, on va commencer une journée comme ça un dimanche matin. C'est bien, j'aime bien.
T'es énergisé. Puis, il y a une chose que je comprends pas de toi, cher commis Steve, c'est que tu ne bois pas de café. Donc, non. Tu coupes du bois le matin. Est-ce que tu portes une chemise à carreaux rouge et noir?
Non, pas du tout. Mais c'est une des choses que je dis toujours à Nancy, ma conjointe, que je trouve ça hyper sexy quand elle porte une chemise à carreaux. Je ne sais pas pourquoi. Le Québécois en moins.
Je pensais que tu allais dire que tu trouvais ça hyper sexy quand tu portais une chemise à carreaux, ce qui aurait été étrange. Hein? Mais j'aurais été d'accord. Là. C'est sûr que les couleurs te vont bien. D'ailleurs, le rouge et le noir te vont bien. À moi également. Pourquoi, Steve? Parce qu'on est des commis au Super Club Vidéo Gore. Bonjour, chers clients. Bienvenue à ce live du dimanche 25 février. Déjà presque 2 mois de terminé à cette année calendrier, Steve. Le temps passe vite. Ça, c'est un signe que les commis vieillissent, mais ils sont toujours fidèles au poste. Cette semaine, on a une invitée, Anouk, de la chaîne YouTube La Chambre Froide. Excuse-moi, je dois mettre un commentaire de Joe Nadeau qui dit « Steve le hipster ». Steve n'a pas de tuc, par contre, pendant son stream, donc on ne peut pas dire nécessairement, ni des lunettes à monture noire.
Non, hein, c'est pas.
Donc oui, c'est ça, cette semaine, comme je disais, Anouk de la Chambre Froide va se joindre à nous là, dans quelques minutes. Une chaîne que je vous invite à découvrir là, dès maintenant, si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à sa chaîne. Elle est également sur Instagram, sur Facebook. Et puis nous, ben, on vous demande la même chose, chers clients, comme toujours. N'hésitez pas à mettre un pouce, à vous abonner, à activer les notifications. On est sur Facebook, on est sur Twitch, on est sur YouTube, sur Instagram et sur TikTok. Éventuellement, Steve, on va peut-être même avoir un channel Discord parce que c'est ça que les jeunes font.
Discord, ah, c'est beaucoup de gestion, mon Stéphane, là, si tu veux commencer à être là-dessus tout le temps.
Ben, tu vas avoir le temps de faire ça, Steve.
Ah, ben oui, c'est ça. Moi, je suis en train de finir. Pourquoi que je coupais du bois ce matin?
Oui, c'est ça, j'allais demander.
Je suis en train de faire les rénovations de juste l'autre côté du mur, là, dans le club vidéo, dans le Super Club Vidéo Gore, pour sa réouverture ce vendredi, le 1er mars. Hein? Saison 2, épisode 1. J'ai très hâte à cette journée que tout le monde et qu'on attend depuis quelques mois maintenant. Hein? Deux mois.
Oui, je pense. Depuis, c'est quoi? Je crois le dernier épisode, c'était le 22 décembre.
Mm-hmm.
Puis, on est quand même demeuré fidèle au poste à partir du backstore. Donc, parce qu'on aime trop notre clientèle. Steve. On n'a pas le choix de demeurer ouvert là, d'une certaine façon. On a reçu toute la palette de types d'invités là, depuis le 29 décembre. Notre premier invité, c'était Steve de la chaîne Revue. On a aussi reçu Horror News Podcast. On a reçu des gens de C'est juste de la lutte la semaine dernière. On a reçu des gens dans l'industrie du gaming. On a reçu vraiment de toutes sortes d'invités, puis on va continuer à faire ça pendant la deuxième saison du Super Club Vidéo Gore. On rappelle les épisodes, donc nos corps de travail, ils sont publiés à tous les 2 vendredis maintenant. Donc, c'est oui. Une semaine sur 2. Et dans les semaines entre les épisodes, il va y avoir toujours, comme maintenant, des extraits de la première saison. Et il va y avoir aussi des lives le dimanche qu'on va continuer. C'est quelque chose qu'on aime bien faire, puis... Certaines personnes nous disent qu'on est leur rendez-vous du dimanche matin avec un café. Écoutez, des gens parler de films d'horreur et de cinéma de genre à 9h le matin un dimanche. Moi, ça me rappelle un peu mes matins de fin de semaine, Steve, quand on se réveillait tôt pour regarder nos dessins animés le matin. Moi, dans mon cas, c'était des dessins animés, de la lutte puis des films d'horreur. Donc, il n'y a pas grand-chose qui change.
Exactement la même chose pour moi. C'était le samedi, hein, le samedi matin, de 7 h le matin jusqu'à midi ou 1 h, là, c'était la télévision et regarder, comme on dit au Québec, les petits bonhommes.
Les petits bonhommes. Ouais. C'est des très bons moments, effectivement. Puis Joe qui dit, on va dormir devant les portes du magasin. Il fait froid un petit peu, par exemple.
Mais il paraît qu'il y a quelqu'un qui sert du Jack Daniels, c'est ce que Steve de Revue nous a dit la dernière fois. Donc, on va
Ça
prendre ça.
ressemble un peu, ça ressemble un peu à notre gérant, ça.
Non, c'était pas du Jack Daniels, c'est du Jager Master, c'est vrai.
Du Jägermeister, oui, qui
Ouais,
goûte.
Jager Master.
Ouais, qui goûte le lendemain de veille dès que t'en prends. Tu sais
Bon,
à
on
quoi
rentre-tu
t'attendre.
dans le vif du sujet, là, on s'éloigne et on dit n'importe quoi.
Ben non, boire du Jägermeister l'hiver dehors, c'est super ça. Mais oui, effectivement, on peut accueillir notre invité dès maintenant, sans plus tarder. J'ai nommé Anouk de la Chambre froide. Anouk, merci tellement de te joindre du Super Club Vidéo Gore. On est très content de faire ça avec toi aujourd'hui.
Mais salut Stéphane et Steve, je suis hyper contente d'être là aussi.
Tant mieux, tant mieux. Anouk, si tu peux un peu nous parler de ta chaîne d'emblée, puis
Oui.
expliquer aux clients aussi du Super Club, d'où l'idée a germé, puis à quoi les gens peuvent s'attendre quand ils visitent ta chaîne.
Alors, j'ai une chaîne YouTube spécialisée dans le cinéma d'horreur et de genre. Et c'est une chaîne où je parle de films des prochaines sorties comme des anciens films. J'adore faire des tops, faire découvrir. Enfin, le but, c'est vraiment de cette chaîne de faire découvrir un maximum de films de tout horizon, que ça soit aussi géographiquement parlant et puis dans des époques différentes. Et puis c'est sans prétention, voilà, c'est accessible à tout le monde. C'est des vidéos en général assez courtes, même si on n'est pas à fond dans les films d'horreur ou de genre, on peut quand même trouver son bonheur. Et voilà, j'essaye d'attiser la curiosité de ceux qui aussi ont envie de se lancer un petit peu plus dans ce cinéma. Voilà, donc j'aime aussi mettre un peu d'humour parce que je trouve que c'est important que ça soit aussi divertissant. Et voilà, et pourquoi j'ai commencé? Parce que je crois que je saoulais beaucoup trop mes proches à parler tout le temps de cinéma. Et puis, je me suis dit, peut-être ça serait une idée de partager avec des gens qui ont envie de m'écouter, finalement, et arrêter de les saouler avec ça. Non, mais plus sérieusement, c'est un cinéma et une passion qui traîne depuis quand même pas mal d'années. Et puis le cinéma tout court, en fait, finalement. Et je pense que j'y trouve vraiment mon bonheur. Et je trouve que c'est un genre qui est tellement riche. Et un de mes trucs préférés dans la vie, c'est de partager. Et j'adore ça. Je pourrais revoir 12 fois le même film avec plein de personnes différentes et plus regarder comment la personne réagit au film. Et du coup, je me suis dit que d'ouvrir une chaîne YouTube, c'était une cool occasion de pouvoir partager avec le plus de monde possible, quoi. Voilà.
Je vois derrière toi que tu es vraiment une fanatique. C'est quoi le nom de ton petit ami qu'on voit sur plusieurs des photos là, qui est
Oui,
dans le coin, hein?
je vous présente Freddy. Ça a été voté par la communauté La Chambre froide, qui est encore une toute petite communauté, mais qui s'agrandit de jour en jour. Et du coup, ils ont voté Freddy. Il y a eu plein de noms qui sont sortis. Donc, je vous présente Freddy, qui
Est-ce que tu sors
m'accompagne dans mes
malheureusement
vidéos.
un petit peu? Est-ce que
Pardon?
tu le sors? Est-ce que tu le sors des fois avec toi à l'extérieur ou il est comme confiné à l'intérieur de la chambre?
J'ai pas le droit de tout dire. Désolée. Il y a des petits problèmes qui pourraient me tomber dessus si j'en parle trop.
Ah, génération de gens sensibles, incroyable. On n'a même plus le droit de se promener avec un cadavre bâillonné. Come
Ouais, je suis d'accord, c'est n'importe quoi. C'était mieux
on. Ouais.
avant,
Oui, ben, comme dirait Céline Dion, comme les choses ont changé. Voilà.
Stéphane, il se doit
Grand
de
classique.
plugger Céline Dion et sa voix à toutes les 2 lives environ.
Ah ben j'adore ça.
Ah oui, tant mieux.
Oui.
Tant mieux. Ça, c'est quelque chose qui a tourné sur la radio c'était interminable. Mes parents écoutaient Céline Dion en loop, donc je suis devenu un fan de Céline Dion par proxy. Je n'ai pas demandé ça, là. Puis, il y a quelques semaines, on a eu Steve de la chaîne Revue. Je ne sais pas si tu connais Steve, Anouk, mais
oui.
un ami québécois qui habite en Suisse maintenant depuis 12 ou 13 ans. Puis, il y a un de ses auditeurs qui s'est joint à nous sur le live. Puis, il a dit « J'espère que vous n'êtes pas contagieux. Je n'ai pas envie d'attraper du Céline Dion. » J'ai trouvé ça très drôle. Puis, depuis ce temps-là, je la plug comme ça quand je peux.
Effectivement, c'est très drôle.
Donc là, Stéphane, c'est quoi le planning de la journée du live de cette semaine? Parce que tu nous as envoyé, tu veux qu'on parle de malaise, je crois. Est-ce que c'est ça, de malaise ou de... pas de malaise.
Traumatisme.
Traumatisme, c'est presque pareil. Ouais. De traumatisme. Et là, on parle en regardant un film d'horreur, pas dans notre vie de tous les jours, là.
Ben, écoute, moi, j'ai pas de problème à ce qu'on tergiverse vers les expériences à l'extérieur du cinéma également, mais c'est surtout pour parler de l'horreur qui traumatise. Donc, l'horreur qui traumatise, d'ailleurs, Anouk a une vidéo qui est sans sas, je vous la recommande chaudement, qui parle de ces 7 films qui l'ont le plus traumatisé. Puis, ce que j'ai trouvé intéressant de ta vidéo, Anouk, c'est que tu as volontairement exclu les expériences de ton enfance, parce que comme tu as dit, rapidement, tu parlerais de plusieurs genres de films et non seulement l'horreur, dont certains Disney. J'ai trouvé ça très drôle. Tu as été traumatisé par des films de Disney. Donc, probablement des scènes en particulier, comme dans Aladdin, par exemple, là, quand il parle.
Exactement.
Avec Ah oui?
On ne juge pas.
On ne juge pas, non, pas du tout. Il y a des choses qui traumatisent. Mais moi, sais-tu quoi? Je veux parler de ça quand même, si vous permettez, Anouk et Steve. Quand j'étais gosse, je regardais la télé comme tout le monde. J'avais une télé dans ma chambre, moi, avec un fini faux bois alentour, comme tout le monde avait. J'avais le câble, puis évidemment, il y avait les annonces qui étaient non modérées dans ce temps-là. Donc, on pouvait voir tout type d'annonces. On voyait souvent des annonces, OK, qui étaient des annonces de services publics sur l'alcool au volant, puis on voyait des simulations d'accidents de gens qui passaient à travers la fenêtre, là, vraiment de la vitrine de leur voiture. Puis c'était, moi, j'étais comme, oh my God, j'étais pas prêt à ça. Là. Moi, je mange mes Fruit Loops là, présentement, puis j'attends mes dessins animés, puis je viens de voir une personne traverser un pare-brise, puis s'étendre au sol. Ça, c'est traumatisant, certainement. Là. Puis ça, c'est une chose. Puis l'autre chose, puis Steve, je t'en ai déjà parlé, tu ris de moi, puis tant mieux, tu as bien fait. La bande-annonce d'un film que je n'ai jamais vu, qui s'appelle Hello Mary Lou, Prom Night 2. Okay? Donc, le premier Prom Night est un film quand même qui a une réputation respectable, n'est-ce pas, dans le cinéma de genre. Mais le deuxième a passé sous le radar complètement. Et la bande-annonce, il y a un certain moment où est-ce qu'on voit Mary Lou se mettre les deux poings sur les hanches puis apparaître dans une porte qui est rétroéclairée. Puis, j'ai eu de la difficulté à dormir à cause de cette scène-là. Puis, je la regarde aujourd'hui, c'est inexplicable. Je pourrais dire.
On parle du film Le Bal de l'horreur en français, je crois.
Okay.
J'ai vu une confusion dans tes yeux, Anouk, de Prom Night 2, Mary Lou, c'est quoi? Mais Le Bal de l'horreur, ouais. Est le deuxième.
Okay. Le deuxième Bal de l'horreur.
Ouais. Stéphane, ça, tu vas parler de ta grand-mère également?
Je peux parler de ma grand-mère si tu veux. Ça, c'est un autre type de traumatisme. Mais en termes d'anecdotes, tu vois. Martin, notre gérant, qu'on salue. Martin, tu vois, on est à l'heure, cher patron, puis tout est correct, là. Hein, je pense qu'il n'y a rien de compromettant dans le background, donc bonjour à Martin. Il dit que Le Bal de l'horreur 2 est meilleur que le 1. Je ne le sais pas, je ne l'ai pas vu encore.
Mais, ah! Bon. Ah, est-ce que tu vas devoir regarder ça dans notre saison 2.
Oui, donc ça, c'est une chose qui m'a traumatisé quand j'étais enfant, puis Steve, on en a déjà parlé là, brièvement, mais qu'est-ce qui t'a traumatisé, toi, quand t'étais... Est-ce que tu as un souvenir distinct de quelque chose qui t'a glacé le sang?
J'ai un souvenir d'un rêve que j'ai fait. Et ce rêve-là, je le faisais souvent. J'étais chez ma grand-mère. C'était en plein jour. Il y avait un homme avec un chapeau noir, un trench coat. Il avait les yeux jaunes et il y avait un tigre. Et j'étais pas capable de sortir de la maison chez ma grand-mère parce que ces deux êtres-là, démons, whatever, étaient à l'extérieur et m'empêchaient de sortir. Et j'ai fait ce rêve-là souvent lorsque j'étais jeune.
Wow!
Je
Un
dis, c'est
tigre
tout.
comme
Oui, un
bête.
tigre. Mais un tigre comme dans Musclor, le Master of the Universe, là, avec un peu comme des flammes sur le côté. Pas un tigre comme.
Okay.
Je crois qu'il était. Je me rappelle pas la couleur, par exemple, ça fait trop longtemps. Côté
Le look est
film,
cool, par exemple.
oui, côté film, lorsque j'étais jeune, j'ai regardé beaucoup de films d'horreur, mais il n'y en a pas vraiment qui m'ont traumatisé en tant que tel, sauf un qui s'appelle The Johnson.
Ah.
Et ce film-là, Stéphane, que j'aimerais que tu regardes pour notre saison 1,
Saison
qui est
2.
un film, saison 2, désolé, qui est un film des Pays-Bas. Vous voyez, juste le dos de la cassette du DVD ici, là, fait peur. Et j'ai vu ce film-là sur une chaîne spécialisée ici au Québec qui se nomme toujours Super Écran. Et j'avais eu peur, là, j'ai été traumatisé. Et j'ai retrouvé ce film-là, j'en ai parlé avant, il y a quelques années, je crois il y a 2 ans, j'ai réussi à le retrouver. Et je veux vraiment que tu regardes ce film-là, Stéphane, pour que tu me dises est-ce que j'avais une raison d'être traumatisé en regardant
Mais
ce
moi, je suis
film-là.
déjà traumatisé juste par le fait que tu en parles. Donc, ça, c'est une chose. Puis, si je n'ai pas le choix, moi, je fais mon travail, Steve, hein. Je suis un vulgaire employé, je suis un commis, rien de plus, sans prétention, comme disait Anouk tantôt. On a Guy dans les commentaires qui nous dit, moi, je suis traumatisé par le fait que Steve a dit musclor au lieu de He-Man.
Oui, on dirait que j'adapte mon langage des fois, là.
Merci, c'est correct.
Voilà. Imen, est-ce que, Anouk, est-ce que tu as reçu Imen, c'est
Non,
quoi?
absolument
Ah,
pas.
voilà. Tu vois,
Absolument
Stéphane, le bal de l'horreur,
pas.
Musclor.
Merci, Steve.
Voilà, exactement.
Puis toi, Anouk, bien que tu n'as pas inclus ces expériences-là dans ton vidéo des 7 films qui t'ont traumatisé, avant qu'on parle de cette vidéo-là, j'aimerais ça que tu nous parles de quelques traumatismes d'enfance quand même.
Je sais pas, vous avez 2 heures de temps. J'ai
On
vraiment
a le temps qu'il
tellement.
faut.
Ah, mais j'étais une très grande trouillarde quand j'étais petite. J'avais absolument déjà tous les Disney, je trouvais quelque chose qui me faisait peur et j'avais peur de beaucoup de choses. Et puis je crois un de mes premiers souvenirs où j'ai eu vraiment peur, c'est la vision d'un flipper qui était dans un restaurant, je pense que mes parents m'avaient emmené, et c'était un flipper de Terminator. Qui avait plein de lumière, etc. Puis il était un peu à moitié défiguré, ou je sais pas. Enfin, voilà. Et je me souviens que cette image-là, ça faisait du bruit, et puis j'étais très sensible au bruit quand j'étais petite. Ça m'a. C'était un peu la première fois où j'ai vraiment. J'étais là, mais qu'est-ce que c'est, quoi? Enfin, ça m'a vraiment fait peur. Et après, pendant très longtemps, j'ai cru que E.T. était sous mon lit. Ouais, je sais, beaucoup de gens rigolent. C'est
Wow!
quelque chose qui me poursuit depuis longtemps.
Mais
Ouais,
ici est traumatisant, en fait.
mais E.T. est traumatisant, je
Oui!
suis désolée. Quand il est tout pas bien, blanc comme ça, il fait peur. Et puis, il faut pas oublier que c'est un film où il s'agit d'enfants. Et du coup, t'as vraiment l'impression de vivre le truc. Enfin, comment dire, ouais, t'as l'impression d'être l'enfant dans le film. Et quand il entend du bruit là dans les champs à côté de chez lui, c'est ultra flippant avec cette fameuse scène où il y a une balle et tout qui arrive vers lui, qui a été repris moult et moult fois dans les films d'horreur. C'est vraiment hyper flippant. Ma mère avait beau me dire il est sympa, après ils deviennent potes, etc. Non, je suis désolée, avoir E.T. sous mon lit, ça fait peur. Voilà. Et puis pour rebondir, je me rappelle très très bien de ces pubs que tu parlais d'accidents de voiture. Elles étaient, en tout cas à mon époque, ultra violentes. Et oui, elles m'ont aussi beaucoup marquée. Ça m'a fait un flash quand tu en as parlé. Ça m'a vraiment marquée. et je ne sais pas à quel point ça a vraiment un effet sur les gens, ce genre de choses, quoi. Je suis pas sûre que... Voilà.
Ben, c'est ça, c'est que ça sert à en parler maintenant en 2024. Je crois que c'est le seul effet que ça a eu, c'est que pauvre enfant qui n'était pas prêt à voir ça. Des PSA sur la drogue, sur l'alcool au volant, c'était très choquant. Puis je pense que l'idée, c'était de choquer, mais l'enfant, lui, il n'est pas concerné. Là.
Ouais,
à part faire peur, puis imaginer ses parents traverser un pare-brise de voiture, ça ne donne pas grand effet non plus.
Ouais. Mm-hmm. Et puis c'était à des heures d'écoute. Enfin, c'était pas à minuit après le dernier film. Enfin, c'était tout à fait l'après-midi entre deux dessins animés, quoi. C'est ça qui était fou.
Exactement.
Je viens de penser à une publicité qui me faisait peur lorsque j'étais jeune. Je viens de la trouver. Laissez-moi la télécharger puis vous la montrer dans 2 minutes.
C'est parfait, ça. On va aller à quelques commentaires que je n'ai pas publiés encore. Donc, Martin qui dit « La scène de la découverte d'E.T. dans le champ, c'est très épeurant. » C'est vrai que c'est quand même sinistre à plusieurs niveaux, E.T. D'ailleurs, les gens avec les soutanes, les genres de scientifiques là, qui pourchassent E.T. à l'intérieur de la tente, c'est horrifiant. Puis, encore une fois, un enfant s'attend à un beau film familial d'amour et de découverte et d'extraterrestres attachants. Puis là, soudainement, on est exposé à carrément quelqu'un qui se fait kidnapper, puis qui est traumatisé. Elliot qui pleure, qui est très convaincant, en passant Henry Thomas dans son rôle. Guy qui nous dit, ouais. « Je pensais que le doigt illuminé de E.T. servait au toucher rectal. En dessous du lit, ça concorde. » Il y a certaines personnes qui ont les âmes tordues, j'adore ça. Les films, on a Joe Nadeau qui dit « Les films de Gaspard Noé sont traumatisants » et je vais redacter le mot F, qui sont vraiment traumatisants, fucking traumatisants. Tiens, disons-le. Je ne connais pas Gaspard Noé, est-ce que vous connaissez bien, pardonnez mon incultisme?
Ben oui, mais c'est je ne suis pas un super fan des films de Gaspard Noé, mais c'est pas des films d'horreur, c'est plus traumatisant mentalement pour qu'est-ce qui se passe pour certains personnages, en fait, je dirais. Là.
Ouais, c'est violent psychologiquement et puis aussi graphiquement, mais c'est pas des films d'horreur. C'est pas à proprement dit des films d'horreur, mais plein de genres peut être... choquant selon la peur, c'est enfin le traumatisme, c'est tellement subjectif, donc y a pas besoin d'être un film d'horreur pour choquer, pour faire enfin la preuve hein, dans la vidéo justement dont on parlera après, y a pas purement que des films d'horreur quoi, parce que tout dépend de comment on à quelle période, enfin voilà, c'est très subjectif quoi.
Oui, c'est le même principe avec la musique. La musique, il y a plusieurs choses qui entrent en ligne de compte pour qu'on apprécie ou pas un morceau. L'âge est une chose, évidemment. Le mood dans lequel on est. Si quelqu'un vit une peine d'amour puis il écoute une certaine chanson à un certain moment, cette chanson-là va marquer cette personne-là. Je crois que le cinéma, c'est la même chose. Puis, c'est une question de timing puis de feeling également, parce que si on n'est pas dans le bon état d'esprit, lorsqu'on visionne un média de divertissement ou qu'on consomme de la musique, ça va avoir un impact différent. C'est pour ça qu'il n'y a pas de... J'ai beaucoup de difficultés, je vais vous dire, avec les règles universelles qui peuvent planer à travers les médias sociaux sur ce qui est bon et ce qui est mauvais. Ça m'a toujours agacé au plus haut point parce que, comme tu dis, Anouk, c'est tellement subjectif et personnel. La personne assise devant l'écran a le droit d'apprécier ou pas. Puis là, il y a comme une certaine crainte des fois de donner son opinion sur quelque chose. Non, c'est correct, tu sais. Puis c'est ça qui fait les meilleures conversations, parce que si on était d'accord sur tout le temps, ça serait plate à mort, puis il n'y aurait pas beaucoup de choix de films. On regarderait tous la même chose, on écouterait tous les mêmes chansons. Je vais remettre le commentaire avant que tu mettes ta bande-annonce, Steve, qui t'a traumatisé. Oui. Cybergreen nous dit « Moi, c'est Loup-garou de Londres. » Très bon choix. Très bon choix de John Landis. À sa sortie en VHS, j'avais 10 ans et à 13 ans, j'ai loué 13 films d'horreur pour casser ça. Quelle anecdote cool! Donc, Evil Dead, La main du diable, les vendredis 13, Halloween. Et à 10 p.m., le courant a manqué pour ajouter le sinistre. OK, wow!
L'enfer!
Steve, il y a un film que t'aimes beaucoup que Intuit Film nous parle.
En fait, c'est notre gérant Martin qui adore Deadly Friends. Martin
ouais,
est un fan. Et surtout un fan de Christy Swanson, Martin. Mais il adore Deadly Friends, effectivement. Mais là, j'ai retrouvé la bande-annonce. J'espère que ça va bien rendre ici. Je vais vous montrer le tout. Ça, là. Et je pense que ça a traumatisé beaucoup d'enfants au Québec.
Je sais ce que tu vas dire.
Je peux remettre mon bras, joue pas, jouez prudemment.
Ça, là, ça m'a terrifié, Steve. Puis Anouk, j'imagine que tu n'as jamais vu cette bande-annonce-là.
Jamais.
Parce que c'était pour les, c'est pour les amputés de guerre Canada. Horrifié,
ah oui.
Horrifié.
Mais est-ce que, vous savez,
c'est
Anouk, est-ce que tu sais, Stéphane, qui a produit cette bande-annonce-là?
Ah non, non, mais ça m'intéresse vivement.
On parle ici de Pierre David, qui est le producteur de Scanners.
Arrête!
Et de plusieurs films des années 80 d'horreur. Et ensuite, maintenant, c'est un grand producteur, mais ça a été produit par Pierre David. Il nous avait dit toute cette anecdote lorsqu'il était venu sur le podcast sur la route de l'horreur il y a quelques années. Mais cette publicité-là, le robot, là, c'était...
Ah, vraiment! Vraiment, puis notre gérant dit ça a dû coûter cher, cette publicité. J'allais dire la même chose parce qu'il n'y a aucun CGI là-dedans. Là. C'était en 87, je crois, ou 86 qu'elle a été produite. Là.
87, j'avais 7.
Bon, voilà. J'avais 5 ans, moi, puis il n'y avait pas le luxe du CGI dans ce temps-là. Guy qui nous dit « Astor, le robot, c'est une pub incroyable. Les gens s'en rappellent encore. Ça prouve le génie. » Voilà, bien dit, mon cher Guy.
Et ce qui est drôle, c'est que sur la page YouTube que j'ai été chercher la pub, le premier commentaire d'une personne est « Cette pub m'a foutu la chienne dès l'âge de 4 ans. La musique, le décor, le criss de robot. Disons qu'à la fin, quand Astor dit « Jouer prudemment », je l'ai écouté en criss à l'époque avec mes yeux remplis de frayeur. »
Beaucoup d'émotions dans le commentaire.
C'est très drôle, ouais.
Ouais,
on a Horror News Podcast qui disent « Wow, trauma fuel ». Ben oui, absolument, absolument. Les enfants n'étaient pas prêts, comme on disait tantôt. Puis justement, on était très prêts à ta vidéo, par contre, Anouk. Je veux qu'on parle de l'horreur qui traumatise. Donc, moi, c'est la vidéo que j'ai vraiment le plus accrochée sur ta chaîne, mais il y a beaucoup de contenu sur ta chaîne, mais je veux qu'on parle un peu de ça. Comment as-tu élaboré la liste des films qui ont fait partie de ton top 7 d'horreurs qui traumatisent premièrement?
En général, je procède comme ça de manière générale, c'est que je fais en fait d'abord confiance à ma mémoire et ce qui me sort en premier selon le thème que je choisis. Et j'écris tout. Après, je fais un système d'entonnoir en fait. Et puis après, petit à petit, parce qu'évidemment, il y a les films... de mon enfance et de mon adolescence qui sont sortis, Cannibal Holocaust, Shining, Halloween, tout ça. Et en fait, j'étais là, non, parce que j'aimerais pouvoir proposer aussi des films qui sont peut-être un peu moins connus. Parce que pour moi, c'est aussi cool de faire découvrir de nouveaux films aux gens. Et surtout, je trouvais plus intéressant et plus facile de porté sur le prisme de moi en tant qu'adulte. Donc du coup, voilà, j'ai fait petit à petit et puis après je les revois tous je referme encore un peu plus jusqu'à en trouver. Là c'était 7, sauf erreur, jusqu'à trouver les 7. Et puis j'essaye aussi de faire varier, c'est-à-dire pas trop dans les mêmes thèmes, pas trop toutes les mêmes années. Bon, souvent c'est début 2000 et nos années, mais sur différents thèmes aussi et différentes raisons aussi pourquoi ils m'ont perturbé, pourquoi ça m'a, ils m'ont, alors j'utilise le mot traumatisé parce que c'est un mot générique, après ils m'ont pas, enfin voilà, mais c'est tous des films qui m'ont provoqué soit facilement une insomnie ou que j'y pense encore, et puis c'est dans ce sens-là, quoi.
Ok, génial. Puis est-ce que à la dernière minute, est-ce qu'il y a certains films qui ont eu le coup près, puis d'autres que tu dis « Ah non, j'aurais peut-être dû mettre celui-ci à sa place », parce que j'imagine que faire l'entonnoir avec sept films, tu dois avoir une sélection peut-être d'une vingtaine, quoi, à peu près. Non?
Alors oui, mais les raisons sont que, parce que je voulais mettre que des films que j'aime, et puis il y a eu aussi des films, par exemple « Martyr », mais je voulais faire un focus dessus. Donc du coup, je veux pas réutiliser tout le temps les mêmes, évidemment les mêmes films. Je veux que ça soit varié. Donc du coup, c'était plus par rapport aussi à ça, à me dire, ok, bah celui-là, j'aimerais plutôt l'utiliser pour un autre format ou une autre vidéo. Il y a eu, de mes souvenirs, il y avait Martyr. Il y a Speak No Evil que j'aimerais mettre dans une autre vidéo. Qui n'est pas encore le cas. Puis après, il y a aussi, bah, par exemple, Blair Witch, mais je me suis dit, bon, je vais faire un fan footage prochainement, je ne veux pas non plus. Enfin, voilà. Donc, ça s'est sélectionné comme ça.
Mm-hmm. Parce que je vais nommer les sept films, puis moi, dans tous les cas, pardon, un en particulier m'a vraiment étonné, mais dans tous les cas, c'est des films que je ne m'attendais pas à retrouver. Moi, je m'attendais plutôt à quelque chose qu'on retrouve un peu plus format fast-food, que les gens vont tout de suite aller vers un choix plus facile comme Paranormal Activity, par exemple, ou des choses comme ça. Puis, rien du genre. Donc, je vais les nommer The House That Jack Built, K-9, The Visit. Ça, c'est celui qui m'a le plus surpris. The Visit est peut-être dans mon top 5 des found footage préférés de tous les temps. En plus, c'est notre fameux, hein, Steve, comme on le nomme, M. Night Shyamalan, qui a réalisé ce film-là. C'est très, très bon, The Visit. Honeydew, ouais. Un film que je ne connaissais pas du tout. Thanatomorphose, un film québécois. Donc, Steve, je ne sais pas si tu connais Thanatomorphose. Killing Ground.
Réalisé par Éric Falardeau, qui devrait venir sur le show éventuellement pour nous parler de sexe et horreur. Éric a écrit un livre sur Bleu Nuit. Mm-hmm. Anouk, je ne sais pas si tu connais Bleu Nuit, mais ici au Québec, lorsqu'on était jeune, à la chaîne TQS, à minuit le soir, à tous les samedis, il y avait un film Bleu Nuit, genre Emmanuel, qui est pseudo-érotique, soft, porn,
ouais, nous, c'était la bibliothèque rose, si jamais.
Ah, voilà. On va dans les couleurs.
Voilà. Nous, c'était rose. Donc, on avait ça aussi sur RTL 9. On avait le film de minuit aussi. Je crois que c'était peut-être aussi le vendredi, si ça se trouve. Et puis, exact. Ouais.
Ouais, nous, c'était très souvent un des Emmanuel. Donc, Emmanuel, ouais. Je crois qu'ils se sont rendus à 14 environ, là. Puis c'était vraiment de la télé de rendez-vous pour des jeunes garçons qui ne devraient pas être debout à cette heure-là, ni avoir accès à ces chaînes-là.
Martin, et des jeunes filles aussi, hein?
Bon, absolument, absolument. Mais moi, je parle pour mon expérience, bien entendu. On a Martin qui nous dit un mot qu'on peut dire au lieu de traumatisme, c'est avoir un impact dans notre vie. C'est très bien dit, effectivement. Mm-hmm. Et Martin rajoute Emmanuel chez les cannibales. Donc ça, c'est vraiment un crossover que je paierais pour voir, absolument.
Ça existe.
Et à fond.
C'est vrai?
Mais on va le voir.
Bon, mais écoute, si quelqu'un le sait, Martin est la personne qui va savoir ça. Et pour terminer la liste, Anouk, il y a Killing Ground et Calvaire.
Oui.
Donc, vraiment une liste qui est atypique, à mon avis, puis qui est une très bonne chose parce que c'est des films qui sont un peu partout. Il y a des films internationaux pour la plupart là-dedans. Il y a un film américain, je crois, qui est de visite. Puis, K-9, si je me souviens bien de ce que tu avais dit dans la vidéo, c'est deux sœurs et un frère qui n'ont jamais quitté la maison, c'est bien ça?
Oui, exactement. C'est un film grec. Je ne vais pas dire le nom du réalisateur parce que je risque de l'écorcher, Yorgos Lamantinos. Ouais, bref, pardon. Et c'est un film que j'aime vraiment énormément. Et que surtout, j'ai été surprise à quel point, et pourtant, surtout depuis que j'ai ouvert la chaîne, mais je dirais que ça fait à peu près 5 ans que je regarde de plus en plus des films qui peuvent être regardables pour la plupart des gens. Et du coup, je dirais que je suis assez blindée. Et là, vraiment, je m'attendais pas, mais j'ai fait une insomnie. Je me suis réveillée pendant la nuit à 2h du matin et ça m'a travaillé et ça m'a mis des frissons. Et c'est un film dont j'y pense régulièrement, vraiment. Mais c'est un chef-d'œuvre. Et pour autant, j'adore ce film. C'est ça aussi que je voulais montrer, c'est que c'était possible d'avoir des films qui t'impactent réellement et puis qui sont pour moi tous des très bons films, à des échelles quand même différentes, mais tous des très bons films, et à voir si on est prêt ou prête à un moment donné dans sa vie.
Mm-hmm. Ça me fait penser un petit peu à Incident in a Ghostland. Je ne sais pas si tu as vu ce film-là, Anouk. Avec Mylène Farmer, d'ailleurs, là, qui joue un rôle.
Ah, ouais, Ghostland, bien sûr, ouais.
Ça, c'est un film qui m'a vraiment surpris, puis peut-être pas traumatisé, mais qui m'a impacté quand même. Beaucoup de gens dans les commentaires nous parlent de Calvaire. On a Intuit Film qui nous dit « Calvaire, c'est un de mes films préférés ». Joe Nadeau qui dit « Calvaire est excellent ». Est excellent, dis-je mal.
Incroyable.
Et Terry qui nous dit « Calvaire est impactant, c'est clair
ouais. ».
Stéphane,
ça m'intrigue.
Je crois que tu vas devoir regarder ça, Calvaire.
S'il vous plaît.
Et j'ai une preuve ici, désolé, on va tout avoir ça sur la tronche, mais Emmanuel and the Last Cannibal.
Ouh!
Réalisé
autographié
Joe D'Amato. Joe D'Amato qui a réalisé ce film. Donc, voilà, ça existe. Et je suis curieux.
Ouais, pas moi. Ajoute pas ça sur ma liste, s'il vous plaît, Steve. Épargne-moi pour une fois. Là.
Mais oui, ça existe.
Et Terry qui rajoute « Très bon Calvaire, il y a un côté étrange, surréaliste, à la belge. » Intéressant.
Ouais, c'est très particulier comme ambiance, c'est clair. Et ça, les films d'ambiance, beaucoup, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Et justement, on parlait de Canine avant. Et Calvaire, c'est aussi pareil. Canine, c'est aussi un film d'ambiance qui te met dans un profond malaise. Et j'adore ça. Mais du coup, c'est très impactant. Ouais.
Nous avons Calvaire au Super Club Vidéo Gore, Stéphane. Il est dans les tablettes.
Est-ce qu'il est disponible en location présentement?
Oui, disponible, oui, parce qu'on est fermé. On va juste vendredi.
OK. Puis, un dernier commentaire de Martin que je vais mettre. La scène de fellation dans le cimetière est sublime. Martin a une définition du mot sublime qui n'est pas la même que moi. Joe Nadeau qui nous dit « Joe D'Amato réalisait 15 films par année. Plus de films que de mois dans l'année. » C'est quand même intéressant.
C'est clair.
Toi, Steve, l'horreur qui traumatise ou les films, est-ce que tu en as quelques-uns que tu veux nommer?
Joe D'Amato en a fait 200 films, juste so you know. Donc oui, effectivement, il doit faire 15 films par année. Les films qui m'ont traumatisé, j'ai pas de souvenir en tant que tel de films qui m'ont vraiment traumatisé. J'ai vu un film dernièrement, on revenait d'une convention. J'étais dans la voiture en plein jour, j'étais assis sur la banquette arrière. Et j'ai commencé à regarder un film sur Netflix de Stephen King, en fait. C'est pas lui qui l'a réalisé, là. Et là, le nom m'échappe. La femme qui est attachée à son lit.
Oui, oui.
Gerald Gaines, en anglais, c'est Gerald Gaines.
Il m'a traumatisé, ce film aussi.
Voilà. Et c'est un film que... J'étais en plein jour dans une voiture. J'étais stressé en regardant le film. Ça n'avait aucun sens. Aucun sens. Il y a certains bouts du film qui m'ont glacé le sang. Mais là, on parle de quelque chose de récent. Fait qu'imaginez là, si j'avais vu ça quand j'étais jeune.
Ça aurait été pire que The Johnsons.
Je ne sais pas. Johnson, c'est spécial. C'est spécial comme film.
Ouais, non, c'est ça, ça a l'air. Moi, j'ai un film en particulier, j'en ai déjà parlé sur le podcast de Alec Dubuc, Horreur 360, on le salue d'ailleurs, s'il est là ce matin.
On va aller parler de Martyr sur son podcast.
Justement, oui.
en fait.
Oui. Donc, Alec va recevoir les humbles commis sur son podcast pour parler du film Martyr en profondeur. Puis comme Anouk disait tantôt, il va avoir une vidéo long form. Est-ce qu'il est déjà disponible, ton vidéo sur Martyr, Anouk, ou c'est un projet que tu as pour le futur?
Non, il est disponible. Okay. C'est dans le format « Laisse-moi te parler » où je prends vraiment un film et je parle que d'un film sur ce format. J'ai fait d'abord sur Creepshow et puis là, j'avais fait sur Martyr il y a 3-4 semaines en arrière.
Ah, OK, c'est récent en plus. Ben, c'est sûr que je vais aller voir ça parce que Martyr faisait partie de la liste. Puis je vais peut-être, je vais en parler brièvement, mais le film qui m'a le plus traumatisé de tous les temps, et là, j'inclus mon enfance, j'inclus les annonces de gens qui passent à travers les vitrines d'auto, j'inclus Céline Dion, j'inclus ma grand-mère qui essaie de tuer un papillon dans ma chambre, ce que je raconterai peut-être plus tard. Steve aime beaucoup cette histoire-là. J'avais 20 ans. J'avais 20 ans. Et c'est le film de Gore Verbinski qui s'appelle The Ring. Donc, c'est pourtant, j'avais 20 ans, j'étais un vétéran de l'horreur déjà à 20 ans parce que je consommais presque exclusivement des films d'horreur là, de ma tendre enfance jusqu'à mon early adulthood. Et je suis allé au cinéma. Je ne voulais pas aller voir ce film-là. J'étais avec ma copine de l'époque, Mylène. Puis, elle a dit, on va aller voir un film d'horreur avec une de mes amies, Isabelle. C'est jamais arrivé que je suis allé au cinéma avec Mylène, son amie, puis ça me tentait pas. Je voulais rester chez nous. J'ai dit, OK, on va y aller quand même, mais ça a vraiment l'air d'un film cheap à jump scare. D'après moi, j'aurais pas grand plaisir là. Donc, je me souviens, on était à Saint-Eustache, au Cinéma Matters. Je m'assois pour débuter le film, puis je suis comme ça tout le long. Puis là, je vois les deux adolescentes dans la maison, puis je suis comme, bon, OK, Scream, mais plus cheap. Et le premier jump scare qui arrive, quand la caméra zoome vers le visage, je ne me souviens pas du nom de la personnage, mais on voit un genre de rictus, là, puis un genre de visage qui se déforme à l'écran. Et j'ai tout de suite fait le saut et j'ai mis ma main comme ça. Okay? Et je vous jure sur la vie de mes enfants que j'ai laissé ma main comme ça tout le long du film. J'étais appuyé comme ça et je cachais mes yeux juste au cas où c'était too much. Puis ce film-là m'a traumatisé. Mais traumatisé, la bande sonore, l'ambiance du film, la colorimétrie, juste tout est gris, tout est lourd. Je trouve que Naomi Watts livre une performance vraiment extraordinaire là-dedans. Je trouve que l'enfant est sinistre. The Ring, donc Terry nous demande quel film, Steph. Je parle de The Ring de 2002, la version de Gore Verbinski. Quand on a quitté la salle, j'étais encore sous le choc et, encore une fois, je vous jure que ceci est arrivé. Pendant des mois, j'ai pris ma douche, puis quand je me lavais les cheveux, je laissais mes yeux ouverts. Parce que j'avais peur d'ouvrir mes yeux et que Samara, avec les cheveux dans le visage, j'avais 20 ans. Puis je pourchassais ces expériences-là, mais ça n'arrivait jamais. Puis tu sais, Anouk, tantôt, tu parlais de comment on se sent au moment où est-ce qu'on visionne un film, puis ainsi de suite. Ben moi, j'avais la garde complètement baissée à ce moment-là et The Ring a vraiment atteint la cible. En tout cas, je ne sais pas vous si vous avez de l'expérience avec ce film-là, mais moi, ça m'a jeté par terre complètement.
Écoute, The Ring, j'ai aussi trouvé le film assez scary, épeurant, avec les jumpscares et tout. J'ai beaucoup aimé, mais c'est à l'époque, j'avais une copine qui, elle, a été traumatisé, là, incroyable par le film. Ça n'avait aucun sens. Et je m'amusais des fois à mettre comme une cassette VHS. Donc, là, c'était la télévision, la cassette VHS. Et j'avais un miroir qui ressemblait au miroir avec la femme. Et un de mes amis avait imprimé comme le frame de ce film-là. On l'avait mis dans le miroir. Lorsqu'elle était rentrée dans la maison, dans le miroir, elle avait vu, puis elle s'était mise à crier. Écoute, je pense qu'elle est encore traumatisée de ce film-là.
La pauvre!
Toi, Anouk, est-ce que tu as eu une...
Ah, moi, j'ai adoré ce film. D'ailleurs, j'en parle tout bientôt de ce film, mais je fais un focus sur le personnage, l'enfant, sur Aidan. Qui est un personnage qui m'agace énormément. Mais j'adore ce film. Je préfère la version japonaise. Mais je trouve vraiment qu'il est vraiment ultra efficace. Et à l'époque où il était sorti en VHS, je pense, j'avais eu des amis qui savaient qu'un pote à nous étaient en train de le regarder et qui ont plus ou moins calculé quand il pouvait se finir, et ils l'ont appelé, parce qu'évidemment à l'époque on avait les téléphones à la maison, et qu'ils l'ont appelé et puis qu'il a fait la voix « Seven Take ». Oh mais c'était tellement sale, j'aurais détesté ça, et il a été hyper mal après, ouais.
Avec raison, tu sais, je trouve vraiment que Gore Verbinski a vraiment réussi à prendre l'essence qui a rendu The Ring de Nakata vraiment excellent, et il a américanisé, mais ça reste que la cassette VHS qu'on voit là, c'est ça qui est traumatisant dans ce film-là, les sons... Le montage, tu sais, Steve, maintenant, je porte beaucoup attention au montage parce que tu es un excellent monteur, je dois te le dire. Puis tu me fais remarquer des choses dans certains montages qui sont moins bonnes que d'autres. Puis depuis que tu m'as mis plus présent au montage, quand je regarde cette vidéo-là, c'est fait avec une main de maître, honnêtement. Là. C'est, il y a une raison pourquoi les gens sont inconfortables puis ils ne savent pas pourquoi. C'est comme, ça ressemble à un cauchemar, littéralement.
C'est ça, un bon montage, tu ne dois pas voir que c'est un bon montage et tu dois rentrer dedans, et c'est clair que The Ring, il est excellent, et tu parlais du son, du coup je l'ai revu tout récemment là, et ça faisait quand même quelques années que je ne l'avais pas revu pour justement une vidéo, et c'est vrai que ce son est extrêmement angoissant, je l'écoutais avec le casque. Ce qui fait encore plus l'effet, c'est encore plus traumatisant, je trouve. Et le son est très très bon et très très oppressant. Et puis ouais, c'est, tu te retournes, t'es là quoi, qu'est-ce qui se passe ? Ouais. Non, il est très très bien. Ouais.
Puis tu sais, toi, Steve, je sais que tu n'aimes pas ce qu'on appelle le elevated horror. Je trouve que The Ring a quand même, tu sais, c'est un film de 2002, là, on s'entend, mais le elevated horror n'était pas encore à la mode, c'était pas encore un genre qu'on nommait comme tel, mais est-ce que tu as quand même aimé le non-sens du vidéo, puis du, tu sais, de l'allure cauchemar, puis la sortie du puits, puis ainsi de suite, ça a-tu fonctionné pour toi?
Ah oui, moi ça a fonctionné à 100% là, ce film-là, The Ring. Cool. Et ça a beaucoup plus fonctionné que les autres. Là, j'ai vu dans les commentaires, il y en a qui parlaient de Dark Water ou de Grunge ou quelque chose comme ça. Mais The Ring, pour moi, a vraiment, vraiment fonctionné. Ça m'a donné le goût de regarder les originaux, en fait, que j'ai beaucoup aussi apprécié, mais qui n'ont pas eu le même impact sur lorsque j'ai visionné le film, à cause que peut-être si je les avais vus en premier. C'est mon ça. Impact a été différent, mais vu que j'ai vu la version américaine et que ça a été un gros succès, tout le monde parlait. C'était en quelle année, 99? 2002. J'étais où en 2002? Avec qui j'avais été voir ça? Je me rappelle plus, mais j'avais. Écoute, ça a eu un très, très, très gros impact. C'est un des bons films.
Le début 2000.
Ouais. Oui, faudrait que je fasse regarder ce film avec Xavier. Il y a 16 ans maintenant, je serais curieux de voir sa réaction.
Mais Anouk, ce qu'elle a dit, c'est une bonne idée. Avec des écouteurs, des bons écouteurs casque, et il faut qu'il soit seul dans le noir à regarder ça. C'est comme ça qu'on élève un enfant convenablement.
Oui, bien sûr.
Mais tu vois, moi j'ai écouté Quiet Place, là, c'est un coin tranquille en français, Quiet Place, dans l'avion. De nuit, durant un vol vers l'Europe, avec mes écouteurs, tout le silence total, tout le monde dort. Moi, je regardais A Quiet Place et ça m'a foutu la chienne.
Ah, vraiment? Quiet Place, c'était bon. C'était très, très bien. Puis c'est une question de performance d'acteur aussi. En parlant de performance, on a Terry qui nous dit « Vous avez gagné des abonnés, Steve et Steph, mérité. » C'est grâce au gérant, OK? Il faut lui donner. C'est le gérant qui transporte le show, mais on fait notre possible. Merci beaucoup, Terry, puis on est bien content que tu sois au rendez-vous. Il dit « Anouk aussi a gagné des abonnés. » Effectivement, Anouk, tu as une certaine... une traction présentement, là, ça va très bien, là, les abonnements. C'est très, très, très cool de voir que ça fonctionne, parler de cinéma de genre.
Ouais, c'est clair. Je suis hyper contente. Je ne m'attendais pas forcément à ce que ça se passe tout ça aussi vite, quoi.
Non, tant mieux, vraiment. Là. À vous deux, si je vous nomme, et même les gens, parce que là, on a énormément de commentaires, c'est pas possible de tous les publier, mais si je vous parle de l'univers de James Wan et je vous parle de Insidious, est-ce que c'est un film que vous pourriez considérer comme traumatisant à certains niveaux?
je dois le revoir. J'ai aucun souvenir d'Insidious. Je sais que Stéphane, que pour toi, c'est un des films qui t'a le plus traumatisé, qui t'a fait le plus peur, et il ressort dans beaucoup de listes de films d'horreur qui font peur. J'ai aucun souvenir du film et je me pose la question si je l'ai déjà vu ou pas.
Oh, wow!
Donc, si tu n'as aucun souvenir, je pense qu'il n'est pas traumatisant, à mon avis. Mais moi, il y a la scène la plus iconique du film qui a ultra marché sur moi. Bon, moi, je suis facile en jumpscare. C'est hyper facile de me faire sursauter. Mais la fameuse scène, je ne sais pas si je veux dire, c'est un peu spoilé pour ceux qui n'ont pas vu, mais...
Voilà.
Je pense que vous voyez...
Il a enlevé ses écouteurs. Donc, spoiler alert à tout le monde.
J'entends pas, au cas où.
OK, alors, c'est quand ça, il passe derrière. La tête derrière.
Ah.
Celle-là, ça a fonctionné sur moi, mais j'ai eu mon corps s'est glacé d'un coup. C'était d'une violence. Et j'ai adoré. Et du coup, j'ai adoré ça. Et du coup, j'étais là, ah, génial, parce que vu que je trouve qu'il est quand même... tu peux remettre, hein. Je spoil plus, c'est bon. Tu peux remettre, oui. vu que c'est un film quand même très mainstream, je me suis dit, enfin, voilà quoi. J'y allais pas forcément de bon train, mais alors je me suis fait avoir par cette scène.
Ouais.
Ah, mais 5 étoiles.
Cette scène... Ah, vraiment, c'est très, très, très bon. Encore une fois, moi, je crois ce qui a fonctionné le plus avec Insidious, parce que oui, c'est un film mainstream, la bande sonore, le violon sinistre au début, lorsqu'on voit le title card, j'ai eu des frissons juste avec ça, parce qu'il y a un silence. Premièrement, la scène d'ouverture du film est vraiment malaisante. Le violon suit parfaitement les plans de caméra qui descendent l'escalier. Steve, je ne spoil rien en passant présentement.
C'est bon.
Et là, tout d'un coup, on a une vision horrifique dans la fenêtre, Anouk, tu te souviendras, et tout de suite après, le title card avec le violon, et j'ai reculé dans mon sofa. Puis ça, pour moi, le sound design, puis la trame sonore d'un film a tellement un gros impact, surtout dans le genre de l'horreur, mais dans tous les films en général. Sans bonne trame sonore, tu n'as pas l'impact désiré, là, c'est presque sûr. Là.
Ah, c'est clair, et je pense que c'est quelque chose que les gens ne se rendent pas forcément compte. Mais par contre, dès que c'est inaudible ou qu'on s'en rend compte et que ça ne va pas dans le film, là, tout de suite, ça gâche le film ou la scène, etc. Donc oui, ça a un impact énorme et je suis d'accord sur Insidious, c'est un travail de dingue qu'ils ont fait, et je trouve qu'il fait partie des films, des très bons films mainstream. Après, je sais pas ce que vous pensez des suites, j'ai détesté les suites, bon, comme souvent je déteste les suites, j'avoue. Je suis peut-être un peu une vieille aigrie pour ça, mais vraiment, le premier est très efficace.
Ouais, je déteste pas toutes les suites, je trouve qu'il y a des suites qui sont meilleures que les originaux, mais ça arrive pas souvent. T'sais, c'est encore une fois un choix sentimental, et j'en parle souvent, Steve est tanné de m'entendre parler de ça, mais Nightmare on Elm Street 2, La Revanche de Freddy, moi c'est mon Nightmare préféré, ce n'est pas le meilleur, objectivement, je trouve que la fin est bâclée. Par contre, c'est le film que je trouve que Freddy est le plus terrifiant, le meilleur maquillage, la trame sonore est excellente également. Puis, même si l'histoire va ailleurs, ben c'est quand même bien. Insidious 2, je n'ai pas détesté, mais l'impact n'était pas le même que le premier parce que c'était plus un reimagining puis une suite directe, mais avec les mêmes concepts, les mêmes tropes de l'horreur. On a Sard qui nous dit Evil Dead 2. Ça, c'est
Oui, alors ça,
deuxième...
je suis d'accord.
Ouais, d'accord, voilà. Mais
d'accord. Ouais.
C'est quand même... Je suis d'accord aussi que les suites, c'est pas toujours la meilleure idée. On a Ben Bonamy qui dit Tiptoe Through the Tulips, qui est une des chansons qui joue dans Insidious. Et oui, ça fonctionne. Mes deux enfants ont peur de cette chanson-là maintenant, puis ils ont 17 et 15 ans, je dois le dire.
Ah, d'accord. Donc,
Stéphane, est-ce que je devrais inclure Insidious dans mes films en série éventuellement dans le futur?
Oui, j'aimerais beaucoup que tu donnes ton opinion sur les suites, Steve. Parce que je crois que le premier est un slam dunk. En même temps, je ne veux pas créer d'attente. Il faut faire attention quand on dit ça, parce que là, tu vas t'attendre à quelque chose d'extraordinaire. Peut-être que tu n'aimeras pas. Moi, je crois que tu vas aimer quand même.
Mais là, c'est sûr que pour la saison 2, les Children of the Corn vont prendre pas mal la saison complète parce qu'il y en a.
Pauvre toi.
Il y en a beaucoup. Mais pour la saison 3, je te promets de commencer avec les Insidious.
Ouais, c'est voilà. Cool. Mais oui, tant mieux. Je crois pas que tu vas être déçu, vraiment. Si je vous nomme un autre film qui est traumatisant, qui est sur beaucoup de listes, puis là, j'ai envie que vous en parlez les deux, parce que moi, j'ai déjà parlé exhaustivement de mon opinion sur ce film-là. Le film de Ari Aster, qui s'appelle Hereditary, Héréditaire de 2018. Comment vous avez aimé ou pas ce film-là?
Alors, je commence.
Oui, vas-y.
Alors, moi, j'ai vraiment adoré ce film. Et il fait partie de mes films préférés de tous les temps. C'est un film pour moi qui m'a marqué, qui m'a provoqué tellement d'émotions différentes. Enfin, je trouve qu'il est. Et puis Toni Collette, pour moi, c'est vraiment genre la reine ultime. J'aimerais que ça soit mon amie. J'aimerais que... Ah, elle est incroyable. J'aime tout ce qu'elle fait. Et Hérédité, c'est vraiment pour moi mon film préféré. J'aimerais pouvoir un jour en faire une vidéo entière, mais je repousse le truc parce que c'est hyper dur, en fait, de parler d'un film où j'ai eu tant d'émotions. Et puis en même temps, j'ai envie de le garder pour moi. Et puis, j'ai pas envie que les gens disent qu'il est nul parce que ça va m'énerver. Mais oui, donc alors, Hérédité, évidemment que la première fois que je l'ai vu, parce que je l'ai vu, enfin, franchement, je pense que je l'ai vu une dizaine de fois pour être très honnête, et toujours avec autant de plaisir, et puis même des fois, je vois des nouveaux trucs, bref. Mais la première fois que je l'ai vu, j'étais les yeux écarquillés, puis j'étais là, mais mon Dieu, qu'est-ce que je regarde, c'est incroyable, mais c'est choquant, c'est tellement d'émotions, enfin voilà, donc... Je vais m'arrêter là parce que je pense que je risque d'en parler beaucoup trop sinon.
Ouais, ouais. Ben c'est parfait. Écoute, j'ai eu une expérience similaire aussi, mais Steve, toi, tu l'as vu au cinéma, ce film-là, n'est-ce pas?
En fait, moi j'ai une expérience avec ce film-là. Un de mes amis qui ne regarde aucunement les films d'horreur m'a appelé en me disant, j'ai entendu parler de ce film-là, il paraît que ça fait peur et tout, je veux qu'on aille le voir ensemble. Je fais cool. Et là, Danny est venu avec nous, Danny de Sur la route de l'horreur. On va aller voir le film. Donc, on était voir Hérédité, je crois, en France. Nous, c'est Héréditaire, whatever. Hérédité, oui. Et j'ai vraiment aimé mon visionnement du film. Je suis sorti du film et en sortant du cinéma, j'avais aimé mon expérience. Mais à partir de ce moment-là, ensuite, on a commencé à jaser, à parler du film. Et plus qu'on en parlait, plus que je me disais, mais c'est bien ridicule, ça n'a aucun sens, c'est mauvais. Et le lendemain, on a pris le petit déjeuner au bureau, parce que Danny et moi, on est des collègues de travail, et on a continué de parler du film. Et à un certain point, j'ai arrêté, je t'ai rendu à « je déteste ce film ». Et je ne l'ai pas revu depuis. Donc, je le réécoute pour vraiment avoir une idée claire du film, à savoir est-ce que j'aime ou j'aime pas. Mais, et là, Guillaume a regardé le film parce qu'on a demandé à Guillaume, est-ce que tu peux regarder le film puis nous donner ton opinion? Et Guillaume a détesté ça au plus haut point. Il a démoli le film de la première minute jusqu'à la dernière en le regardant. Et là, ça m'a fait encore plus le détester, mais c'est bizarre. Faut que je réécoute ce film.
C'est un film qui est très polarisant. Ouais, même dans les commentaires, Steve et Anouk, je peux vous dire présentement, on a beaucoup de commentaires. Les gens réagissent vivement lorsqu'on parle d'hérédité. Ouais. Puis, c'est soit les gens adorent, disent qu'ils ont été complètement terrifiés ou qu'ils ont détesté. Pas ces moyens... Il y a un seul commentaire qui est mitigé un petit peu et c'est Pandorum me laisse complètement froid, se regarde mais sans plus. Donc, mais les autres, c'était nul. J'ai pas trippé sur Héréditaire non plus. Dans d'autres cas, on a Intuit Film qui dit chef-d'œuvre. Les films polarisants, j'adore avoir des discussions sur ça.
Bah, en attendant, si toi, Steve, ça t'a fait autant parler, même si c'était par des sentiments négatifs, ça veut dire qu'il a fait quelque chose. Donc ça veut dire que finalement, oui, il a fait son taf. Que t'aimes ou t'aimes pas, mais si ça te fait parler, si enfin, je veux dire, pour moi, un mauvais film, vraiment, c'est que je m'endors devant et puis que je m'ennuie et puis que... Mais en fait, en vrai, peu importe ce qui te provoque, que ça soit des sentiments négatifs ou positifs, il te provoque quelque chose. Donc, on peut pas lui enlever que c'est une œuvre artistique qui a quand même unique et qui a quand même le mérite d'exister et d'être vue, en fait. Je pense. Oui. C'est mon avis au niveau de l'art en général, en fait. Parce que, comme on a dit tout à l'heure, c'est tellement subjectif. Et en vrai, même si tu m'as brisé le cœur en disant que tu l'aimais pas, ben, vrai, tu en parles, ton histoire a fait que t'as dit que tu en as parlé beaucoup. Donc, ça veut dire qu'il t'a provoqué quelque chose. Pas besoin forcément de le revoir, mais je pense c'est intéressant.
En fait, je suis curieux de le revoir parce que j'étais pas dans la salle en me disant comme « Ah! » J'étais dans la salle en aimant le film. C'est lorsqu'on s'est mis à en discuter par la suite que mon opinion a changé. Donc, je veux revoir le film pour trouver et découvrir le pourquoi que mon opinion a changé parce que j'ai plus revu le film. Voilà, c'est ça.
Oui, c'est ça. C'est comme un conflit interne pour toi, Hérédité, Steve. Tu sais, moi, mes enfants, Tom et Xavier, c'est le film qu'ils font regarder à leurs amis lorsqu'ils veulent les introduire à l'horreur. Puis, moi, justement, c'est un film qui fait parler. Donc, c'est un film qui touche la cible parce que les gens en parlent avec passion puis intérêt. Steve ne comprend même pas pourquoi il a passé de l'aimer à le détester. C'est quand même lui, il est polarisé dans son propre opinion. Je n'ai pas vu souvent des trucs comme ça. L'autre chose que j'aime beaucoup de Ari Aster, c'est qu'il a essayé quelque chose de complètement différent. Il n'y a pas d'autre Hérédité avant Hérédité. Puis, ça me rappelle les belles années de l'horreur des années 80-90, surtout 80, où est-ce que les réalisateurs prenaient des risques et essayaient quelque chose. C'est sûr qu'il y avait une inondation du slasher dans les années 80, mais il y avait quand même des concepts auxquels les gens se lançaient au mur et voyaient ce qui collait. Puis, c'est drôle qu'elle s'appelle Toni Collette, mais Toni Collette transporte le film en grande partie avec Gabriel Byrne aussi. Les gens ne parlent pas beaucoup de la performance de son mari.
J'adore tous les... Oui, oui, mais Toni Collette, c'est une
vraiment,
masterclass qu'elle vous fait.
Hein. Tellement. Puis son fils, la scène du cauchemar où est-ce qu'elle dit à son fils qu'elle n'aurait jamais voulu l'avoir, là, j'ai eu des frissons. C'était tellement puissant comme performance d'acteur. Moi, j'ai adoré. On a aussi Guy qui a dit, je ne l'ai pas lu tantôt, mais Héréditaire, c'est par A24. Effectivement, c'est par A24. Les champions du film prétentieux pour hipster. Come on, ça, c'est sévère un peu quand même, là. Je trouve que A24, je suis très content qu'ils soient là. Ils ont beaucoup de succès au box-office, puis ils gardent l'horreur. Le genre de l'horreur est très payant.
Mais je suis d'accord avec Guy au début, mais de plus en plus, A24 deviennent une boîte de prod hyper commerciale. De plus en plus, ils ont des films qui sortent très, très, très commerciales et éventuellement, l'argent mène le monde. Ils vont commencer à en sortir de plus en plus commerciales pour faire plus d'argent. C'est mon opinion, là, mais c'est les films qui sortent maintenant sont... sont très différents de ce qui sortait au début.
Ben, tu sais, puis justement, ça me fait penser par rapport au genre de film. Tu sais, j'ai parlé d'Ari Aster, lui qui a mis, je crois, le terme elevated horror sur la map, en quelque sorte. On parle d'elevated horror depuis Ari Aster beaucoup plus qu'avant. C'est sûr que Robert Eggers, hein, Steve, ton préféré avec The Witch. Également, c'est un des films que Steve déteste le plus au monde.
Bon, moi, pas là-dessus.
Je veux qu'on parle, Anouk et Steve, des différents sous-genres de l'horreur. Donc, êtes-vous d'accord d'emblée pour dire qu'aucun autre genre cinématographique a plus de sous-genres que l'horreur? Hein? Je crois que c'est indéniable, n'est-ce pas?
Ouais.
Quels sont nos sous-genres préférés? Anouk, j'aimerais savoir, dans ton cas, c'est quoi tes sous-genres de l'horreur qui sont la première chose à quoi tu penses, en fait, là?
Bon, j'aime beaucoup, beaucoup le found footage parce que c'est un genre qui je sais pas si c'est parce que Blair Witch m'a traumatisée et puis que je l'ai vu en plusieurs fois et c'était nouveau et c'était bizarre et puis après Cannibal Holocaust, enfin voilà. Et je suis un peu plongée dedans, c'est dans mes presque premières expériences de films d'horreur. Et du coup, le found footage marche vraiment, donc j'ai toujours du plaisir à voir parce que, comme j'ai dit aussi, je suis très facile à sursauter. Et en found footage, c'est vraiment des choses qu'il faut beaucoup. Après, je sais que ça divise beaucoup, le found footage, et mm-hmm. qu'il y a beaucoup de films que je trouve pas bons du tout dans ce sous-genre. J'aime beaucoup les sous-genres aussi de comédie horrifique. Ça aussi, c'est quelque chose que pas beaucoup de gens aiment. Mais moi, j'adore ça. J'aime beaucoup les comédies horrifiques aussi d'Angleterre. J'adore l'humour anglais. Voilà. Et autrement, j'aime beaucoup aussi, mais de plus récemment, les films de torture porn. Et puis, j'aime aussi les slashers. Ça, c'est, j'ai grandi dedans. J'étais ado où il y avait, où la période slasher revenait à fond avec les Scream, c'est arrivé près de chez vous, etc. Donc du coup, ça c'est aussi un sous-genre qui me tient à cœur. Mais à vrai dire, c'est un peu comme la musique. J'ai vraiment, je trouve qu'il y a tellement de trucs bons dans tous les sous-genres que c'est, en fait, je crois que c'est une question hyper dure à répondre vraiment, en fait. Je trouve que c'est dur de dire, mais voilà.
Ben, c'est une très bonne réponse parce que found footage est le premier qui t'est venu à l'esprit. Puis ouais. le found footage est très populaire. Moi aussi, j'aime beaucoup. Est-ce que tu as aimé Creep? Est-ce que tu as vu Creep, en fait?
Oui, j'ai fait une vidéo sur mes top 5 found footage et il était en deuxième position. Donc Creep, je l'ai vraiment beaucoup, beaucoup aimé. Creep 2 est pas mal aussi, mais je l'ai trouvé... tellement efficace, tellement simple, et puis aussi avec cette espèce de malaise où tu sais pas si tu dois rire ou si tu dois si tu te sens mal, enfin voilà. Ça c'est aussi un genre de film je sais pas s'il y a un nom sous genre de film, mais où il y a plein d'émotions différentes, où les films coréens sont très doués pour ça, par exemple. Mais oui, alors Creep, j'ai adoré. J'ai vraiment adoré, adoré.
Est-ce que tu as vu Megan is Missing?
Oui.
Je ne sais pas si... Comment as-tu trouvé ce film?
Alors, il n'est pas dans mon top 5, clairement. Je trouve qu'il y avait un... Je trouve que la première partie est intéressante parce qu'il y a des mécaniques que je trouvais assez originale. Et après, je trouve que la scène de fin est assez ouf.
Oui.
Mais très personnellement, et ça, bah voilà, c'est subjectif, mais moi, je peux plus les scènes de viol. Pour moi, c'est j'en ai trop vu et vraiment c'est quelque chose que maintenant même pour des raisons pour mes vidéos j'avais revu à Split on a Grave et vraiment j'ai passé en fait, j'ai avancé, je peux plus quoi. Donc du coup voilà, oui je l'ai apprécié mais c'est pas du tout mon préféré quoi.
Tu vois, je suis d'accord avec toi, le début est très intéressant. Ensuite, même si le film n'est qu'une heure 25 minutes, il y a une partie au centre qui est un peu longue et qui est comme... Mais la fin, elle est hyper traumatisante. Je veux dire, ouais. Et dans le temps, j'étais un des programmateurs au Comic-Con de Montréal et le réalisateur du film était le directeur photo de la première saison de American Horror Story. Il était venu comme invité pour parler du film et lui, il voit ce film-là comme un avertissement de « faites attention à ce que vous faites ». Il utilise ce film-là pour essayer que les gens ne se fassent pas prendre dans tout l'engrenage qui est ce film-là. La discussion était quand même très intéressante. Mais tu vois, moi, après avoir vu ce film-là, J'ai fallu que je fasse des recherches. J'ai communiqué avec l'actrice parce qu'on dirait qu'il fallait que je m'assure qu'elle était bel et bien vivante.
Wow.
Oui, il est très, très, très puissant comme, comme fin, mais effectivement, malgré qu'il y ait 1h25, il est un petit peu long à un moment donné. Ça devient,
ah,
il y a
bon.
Des gens qui le trouvent hyper emmerdant.
Avez-vous vu Host? Un film de pandémie de 2020. Host, il trouve une médium qui invite sur Zoom. J'ai vraiment aimé Host.
Et il est cité comme un des films les plus traumatisants et qui fait le plus peur. J'ai vu, parce qu'évidemment, je fais plein de recherches et il est très, 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 très souvent cité, celui-là. Et il a un côté quand même, faut pas déconner, c'est clair, il a un côté assez efficace.
Oui, vraiment.
Ouais.
Vraiment. Mm-hmm. Puis, c'est de créer une œuvre qui a un impact avec rien. C'est sûr que Paranormal Activity, c'est un bon exemple de 2010. Un film ça qui m'a fait très peur aussi, qui a coûté, je crois, comme 15 000 $ là, puis qui a rapporté,
exactement,
je ne sais pas combien. Ça n'a aucun sens. Est-ce que vous avez aimé Hell House LLC? Est-ce que tu as vu ça, Steve, Hell House?
Non, pas vu non plus.
Super bon found footage. Quelle performance des acteurs. C'est eux qui transportent le film, encore une fois, parce que le scénario, c'est du déjà vu quelque peu. Mais Hell House, là, je vois Anouk là, qui acquiesce. Anouk, c'est quoi ton expérience avec Hell House?
Bah, il est dans mon top 5 aussi. C'est vraiment... Je trouve qu'il est ultra efficace. Et puis, moi, j'ai toujours ce truc... Il y a des gens, ils ont besoin de voir pour être divertis. Et moi, le subjectif de pas voir les choses de nouveau, le son, etc., ça marche ultra bien sur moi. Et Hell House LLC, je crois, j'ai vraiment aimé et j'ai adoré l'expérience que j'ai vécue avec celui-là. Et je trouve que c'est un super fan footage assez méconnu et que je conseille vivement, quoi.
Ben, Terry qui nous dit Hell House LLC, c'est son film fan footage préféré. Les acteurs sont excellents. On a beaucoup de commentaires sur les fan footage depuis tantôt, Steve. Hein? On est en train de se faire empiler les commentaires. Vraiment, Hell House, moi j'ai vu dernièrement The Carmichael Manor, qui est dans le fond un origin story de Hell House, qui est tout nouveau, là, qui a moins d'un an, je crois. La seule chose que je peux dire sans spoiler, je ne sais pas si tu l'as vu, Anouk, Carmichael Manor, qui est le 4, je crois, de Hell House.
Ah, l'actrice... non, je l'ai
pas vu. OK, bon, mais mon opinion, sans rien révéler du film, le personnage principal, la protagoniste, j'avais envie qu'elle disparaisse rapidement. Une personne détestable. Je vais nommer quelques sous-genres. Ben, en fait, je vais en nommer plusieurs, OK? Juste pour montrer à quel point c'est un éventail extraordinaire. Il y a l'horreur psychologique, il y a l'horreur slasher, bien sûr. Il y a l'horreur gothique, l'horreur action. Je pense à World War Z avec Brad Pitt, là, qui me vient l'idée rapidement. L'horreur survival, ça, beaucoup de gens ont dit dans les commentaires tantôt que c'est un genre qu'ils aimaient beaucoup. L'horreur paranormale. L'horreur zombie, on a Joe Nadeau, je sais que c'est un gros fan de Lucio Fulci, de Beyond, qui est un film unique et traumatisant en soi. On a l'horreur folk, The Witch, le film préféré à Steve, n'est-ce pas? On a l'horreur style Lovecraft. Steve, t'aimes vraiment The Witch, hein?
Je déteste. Quoi, à chaque fois que tu dis non, ça m'enlève une journée d'espérance de vie.
Une journée au complet.
Oh,
faire attention.
Okay, je vais dire une heure.
Un sous-genre que je trouve qui a un peu disparu maintenant, c'est l'horreur monster. T'sais, l'horreur avec les monstres de la Universal. Je pense à Monster Squad, un film des années 80 que j'affectionne particulièrement. On voit plus beaucoup de films comme ça, avec les monstres qui sont comme...
Ça revient gentiment, je crois.
C'est vrai?
On en voit beaucoup dans les films d'horreur plus indépendants, les films à bas budget. Moi, je discutais avec des distributeurs lorsqu'on on a mis sur les tablettes Hell to the Deadites, notre documentaire, et ils nous disaient ce qui se vend le mieux, c'est les films de monstres.
Ah, cool!
Parce que tous les territoires au travers du monde aiment ce genre de film-là.
Tandis que c'est un genre universel.
Ouais, une comédie d'horreur, ça peut être plus difficile parce que l'horreur britannique ou l'horreur américaine ou l'horreur canadienne ne va pas fonctionner. Donc, il y a plein de territoires qui ne voudront pas de ton film. Mais aussitôt que tu as un film de monstre avec un loup-garou, une créature, et ça se vend très, très bien. Donc, si vous voulez faire des films d'horreur indépendants, vous avez un budget pas pire, ben allez-y dans les films de monstres.
Dans les films de monstres, puis Guy nous dit justement par rapport aux films de monstres, Vermine est considéré comme un monster movie qui a un bon succès en Europe, parce que c'est un film qui n'est pas disponible au Québec présentement.
Vermine. Encore, non, j'ai hâte.
Non, j'ai très hâte. Est-ce que tu l'as
dommage.
Vu, Anouk?
Ah oui, mais c'est rare. Je l'ai adoré. J'aime beaucoup le réalisateur, Vanicek, que je connaissais déjà d'avant, qui a commencé comme beaucoup de réalisateurs et réalisatrices par des courts-métrages. Et j'adorais déjà ces courts-métrages. Très fun, très... très moderne, en fait. Et j'ai trouvé vraiment Vermine extrêmement moderne et avec un fond qui, pour moi... je trouve qu'il est important. C'est vrai que j'aime bien aussi quand ça fait aussi réfléchir et quand il y a un sous-texte et qu'on lit entre les lignes des choses qui sont sociétales importantes, et c'est tout à fait le cas de Vermine. Et ça reste ultra fun et divertissant aussi. Enfin, je veux dire, c'est pas ennuyeux. Il n'est pas parfait, ça se voit que c'est son premier film, mais il faut le suivre de très près. Apparemment, il va faire une réadaptation d'Evil Dead. Je ne sais pas si c'est des fausses informations ou pas, mais je suis à fond avec Vanicek, qui est en plus un compatriote. Donc, du coup, voilà, je l'ai beaucoup aimé. Oui, il a des défauts, il n'est pas parfait. Mais je trouve qu'on devrait saluer, c'est tellement rare d'avoir des films français qui pop comme ça, et puis qui est aussi dans un autre environnement, parce que c'est souvent les mêmes environnements, et là c'est cool que ça soit dans une cité et tout. Enfin, moi j'ai vraiment beaucoup aimé, quoi. Et ouais, dommage voilà, que vous ne l'ayez pas.
Ben, c'est une question de temps. Ça va faire partie des arrivages, hein, Steve, bientôt. Mm. Dès qu'on va le trouver, il va faire partie des arrivages au club. Puis, je sais que Vanicek a confirmé qu'il a été mis au mandat là, pour faire un nouveau Evil Dead, un spin-off. J'ai très hâte de voir ça. Puis, le fait que les gens parlent autant de Vermine puis qu'on ne l'ait pas encore, là, ça rajoute du hype. On a vraiment hâte de voir ça, là.
Et moi, j'ai vu plusieurs de ces courts-métrages parce qu'on a projeté ces courts-métrages au Requiem ici dans les années ultérieures. Donc, antérieures, voilà. Et ces courts-métrages étaient très, très bons. Donc, j'ai vraiment, vraiment hâte de voir Vermine. Stéphane, quand tu parles de sous-genre, tu sais, on parlait tantôt de sous-genre d'horreur, que c'est presque juste le genre qu'il y a des sous-genres. Mais en fait, tous les genres ont des sous-genres et s'inventent des sous-genres. Tu sais, comme je vois une liste rapidement, là, les comédies d'action, de body movie, de burlesque, de chorale, de crazy night, de danse, de dramatique, d'école. Il y en a plein. Et je trouve des fois qu'on invente des sous-genres de trop. T'en as nommé tantôt The Witch était un film de quoi?
C'est de l'horreur gothique, à mon avis.
Non, ouais, c'est pas folklorique.
Ouais, le folklore.
Excuse-moi, oui, c'est du folk horror. C'est
folk
ce que
horror,
j'ai dit.
Voilà.
C'est ça. Je trouve qu'à un certain point, c'est de s'inventer des sous-genres. C'est sûr que c'est. Il y en a extrêmement, puis on peut catégoriser les films, mais je pense que même les films d'action, il y a sûrement plein de sous-genres de films d'action qu'on peut avoir. Mais moi, un que j'aime beaucoup dans l'horreur, j'adore les thrillers. J'adore les thrillers, les Seven, le Silence des agneaux, le Sixth Sense. C'est pas des films d'horreur. Quand on parle de films d'horreur, les gens pensent à Friday the 13th, pensent à Halloween, pensent à des films gore, à Hostel. Puis souvent, ils ne vont pas catégoriser le thriller policier, en fait, comme horreur. Mais moi, c'est un sous-genre que j'adore. J'adore ça. Mm-hmm. Y a tellement des bons films qui sont sortis de ce sous-genre-là.
Oui. Tu sais, les slashers, ce que j'aime des slashers, perso, oui. Moi, c'est mon sous-genre préféré d'horreur. En fait, c'est que c'est facile à regarder. C'est comme... tu sais, c'est pas lourd. Tu n'as pas besoin d'avoir ton attention à 100% arrivée à l'écran. Moi, j'ai un certain besoin de bouger. Des fois, je m'emmerde réellement. Puis avec les slashers, j'ai pas l'impression de rater. Comme par exemple, un film de Robert Eggers, si tu rates deux ou trois scènes, tu perds le sens du film en quelque sorte. T'sais, c'est un film qui te demande d'être rivé à l'écran, puis qui te demande un certain investissement. Puis je crois qu'on a tous maintenant, avec l'accès à cette merde, qui est quand même fantastique, on a accès à toute l'information disponible sur la planète depuis le début de l'humanité là-dedans. Donc, on est toujours à portée à scroller puis à se divertir. Je dois dire que les slashers, moi, c'est une des raisons pourquoi j'aime autant, c'est que j'ai pas besoin d'être comme ça quand je regarde. Ceci dit, Robert Eggers a fait un film qui s'appelle The Lighthouse, qui n'est pas un film d'horreur, mais peut-être qu'on pourrait le catégoriser comme film d'horreur aussi, là. Mais j'ai adoré The Lighthouse. J'étais subjugué par ce film-là. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Là.
Mm-hmm. Pas vu. C'est tourné au Canada, hein. En fait. C'est à
Colombie-Britannique.
Nouvelle-Écosse.
Et production à 24.
Oui, exactement. 12 heures de voiture d'ici, Stéphane, tu vas aller voir le phare.
Ben, ça serait génial, vraiment. Mm-hmm. Mais ouais, c'est ça, tu sais, pour les sous-genres, j'aime aussi le gore porn. Tu sais, Super Club Vidéo Gore, le nom, c'est pas un hasard. J'ai adoré Eli Roth, mon film préféré d'Eli Roth, c'est le premier Hostel. Un film qui a comme deux, comment je peux dire ça, deux vitesses. La première vitesse de Hostel, au début, c'est léger, l'ambiance est au party, l'ambiance est à la jeunesse, à l'effervescence, puis ça tourne rapidement à du gore qui est difficile à regarder. Le tendon d'Achille qui se fait trancher avec le scalpel, je me souviens encore. Mais c'est pas tout le monde qui aime le gore porn. Moi, j'aime beaucoup. On a Jonathan Desmarais qui demande, est-ce que le film noir est un sous-genre de l'horreur? L'est-ce, Steve et Anouk?
Non. Moi, je sais pas. Moi, je vais peut-être dire un truc qui va fâcher, mais je m'en fous un peu, en fait. je regarde... Non, mais les genres, les sous-genres... Enfin, je veux dire, des fois, il y a des gens qui me tombent dessus en disant « Mais ça, c'est pas un film d'horreur, c'est un film nanana. » Je suis là « Ouais, enfin... » Voilà, moi, il m'a fait peur. Moi, il m'a provoqué ça. Donc, je l'ai mis là-dedans. Et puis, on s'en fout, non? En fait, l'important, c'est qu'on parle de films et puis qu'on mette en avant des œuvres artistiques qu'on apprécie et puis qu'on partage. Donc, voilà, pardon, mais même si quand même j'arrive à comprendre qu'une comédie romantique, ce n'est pas un film d'horreur, on est bien d'accord. Mais des fois, il y a des gens qui sont... Enfin, hyper carré sur ça. Et c'est
binaire,
tout...
0 ouais, ou 1.
C'est... Ouais, et c'est pas du tout mon cas. Je m'en fous un peu, en fait. Et c'est pour ça que je pense que... Et c'est pour ça que je pense que ça entretient mon ouverture à plein de genres différents et à voir plein de choses différentes. Et sans me dire « Ah non, ah, c'est encore un found footage » ou « Ah, c'est encore un truc comme ça, non. » Et puis partir, en fait, défaitiste dès le départ, en fait. Et voilà. Donc, voilà.
Oui, absolument. Puis, non, je ne sois pas désolé du tout. Justement, Jonathan, il est bien d'accord. Il dit pas besoin de tout mettre dans une case. Tu sais, quand je parle de binarité, c'est un peu ça. C'est noir ou c'est blanc. Puis c'est souvent comme ça dans... Tous les médias qui suscitent la passion chez les gens, je pense aux films d'horreur, je pense au gaming, je pense à la communauté du catch, la lutte, je pense à la communauté du métal, de la musique. Les gens, c'est toujours « oui, c'est bon, non, c'est mauvais ». Oui, c'est un film de telle sorte, non, c'est pas... Il y a beaucoup de gris dans l'interprétation d'un média artistique, mon avis du moins. Puis, c'est ce qui fait les plus belles discussions. Anouk, c'est génial. Puis, on ne devrait jamais s'excuser de donner notre opinion. Hein? Puis, on a tendance à le faire, mais ce que tu dis, c'est exactement ça. Moi, c'est comme ça que je me sens. Film noir ou pas, je me suis senti terrifié ou j'ai trouvé ça nul, puis c'était un film de gore porn ou de body horror ou peu importe. C'est tellement subjectif, là, d'ailleurs. Puis, tu parlais aussi de choix et de sélection et d'ouverture. Bien, justement... On arrive à la fin de notre épisode, notre sweet spot, mon Steve, 85 minutes bientôt. L'ouverture du Super Club Vidéo Gore, la deuxième saison, c'est ce vendredi, donc le 1er mars. Le Super Club Vidéo Gore ouvre ses portes à nouveau pour vous, chers clients. Et puis, je veux remercier Anouk chaudement de s'être prêtée au jeu cette semaine. Tu as été une cliente en or. Merci, ça a fait des discussions extraordinaires. Puis, je veux... D'ailleurs, si tu peux dire aux gens où est-ce qu'ils peuvent te trouver sur les différents médias sociaux.
Alors, tous les dimanches à 18h, heure Europe. Je sors la vidéo, une vidéo tous les dimanches sur ma chaîne YouTube, pardon. Et je suis sur Insta et Facebook. Je crois que je comprends pas TikTok, donc je suis trop vieille pour TikTok. mais je suis sur Insta et Facebook, voilà.
Parfait. Puis, j'invite les gens vivement à suivre Anouk sur sa chaîne YouTube, La Chambre froide. Et si vous voulez avoir un premier vidéo pour donner le ton, à quel point Anouk est vraiment une passionnée du genre et des sous-genres de l'horreur, comme on parle, allez voir sa vidéo sur les 7 films qui m'ont traumatisé. Anouk, tu es très éloquente, puis c'est super intéressant les points que tu apportes. Donc, c'est un très bon départ pour la chaîne, je crois, pour quelqu'un qui ne te connaît pas. Et de notre côté, bien entendu, on est également sur YouTube. On est sur Facebook, on est sur Instagram, on est sur Twitch. D'ailleurs, je vais sûrement gamer aujourd'hui. Et s'il y a des gens qui sont ici présentement qui ont envie de se joindre à moi, déjà, là, il y a quand même pas pire de traction sur Twitch, mais pas encore. Des fois, on est une dizaine de personnes là, qui me regardent gamer. Je vais aujourd'hui jouer à un jeu qui s'appelle Project Zomboid. À mon avis, c'est le meilleur jeu d'horreur de survie qui existe sur la planète présentement. Donc, joignez-vous à moi sur Twitch. Probablement cet après-midi, c'est vraiment extraordinaire. Puis nous, on est sur TikTok. On est trop vieux pour TikTok aussi, Anouk, mais on l'a quand même fait. Et puis, bravo. On s'amuse.
Moi, TikTok, on n'essaie pas de le comprendre. On fait juste mettre une vidéo rigolo une fois de temps en temps, puis... Et voilà, c'est tout. Mais on n'essaie pas de deviner, OK, mais quel genre de vidéo faudrait mettre pour avoir plus de followers? Non. TikTok, c'est juste for fun.
Exactement, okay. Exactement. Puis malheureusement, je chante du Céline Dion sur un des clips, donc faites attention à vos oreilles avec ça. Intuit Film, merci pour le live, c'était vraiment cool. Merci à toi d'avoir été là, d'avoir participé. C'est grâce à vous que le Super Club Vidéo Gore demeure ouvert, le dernier club vidéo ouvert au Québec, n'est-ce pas, Steve?
Ah ben oui, c'est sûr.
Bon, mais tant mieux. Joe qui nous dit très bon show. Tu vois, Anouk, tu ne l'as pas choqué avec ton opinion sur les films noirs du tout. Il est bien content. Donc, encore une fois, merci à tous. Merci à toi, Anouk. Puis, on se retrouve vendredi pour le premier épisode de la deuxième saison. Donc, à très bientôt.